Yep, all ready.
René Barjavel, La fin du tigre. Jamais je ne m'habituerai au printemps. Année après année, il me surprend et m'émerveille. L'âge n'y peut rien, ni l'accumulation des doutes et des amertumes. Dès que le marronnier allume ses cierges et met ses oiseaux à chanter, mon cœur gonfle à l'image des bourgeons et me voilà de nouveau sûre que tout est juste et bien, que seule notre maladresse a provoqué l'hiver et que cette fois-ci, nous ne laisserons pas fuir l'avril et le mai. Le ciel est lavé, les nuages sont neufs. L'air ne contient plus de gaz de voiture, on ne tue plus nulle part l'agneau ni l'hirondelle. Tout à l'heure, le tilleul va fleurir et recevoir les abeilles. Les roses vont éclater et cette nuit le rossignol chantera que le monde est une seule joie. Tout recommence avec des chances neuves et cette fois, tout va réussir. J'ai un an de moins que l'an dernier. Non, pas un an, toute ma vie de moins. Je suis une source qui commence. C'est la grande illusion annuelle. Le règne végétal s'y laisse prendre en premier. D'un seul élan, des milliards d'arbres et de plantes ressurgissent. Poussent des tiges enthousiastes, déplient des feuilles parfaites qui n'ont pas de raison de ne pas être éternelles. Pourtant, dans l'autre moitié du monde, l'automne est déjà là et a jeté au sol ces merveilles que l'hiver va pourrir. Mais pour nous, que le printemps aborde, l'automne est invraisemblable et l'hiver n'a pas plus de réalité que la mort. Le marronnier est blanc comme des communiantes, le pêcher est une flamme rose, le lilas une torche. Dans tous les jardins, les champs et les forêts, dans les immensités cultivées ou sauvages, sur chaque centimètre carré de terre non déserte, c'est le prodigieux déploiement de l'amour végétal, silencieux et lent. Chaque fleur est un sexe. Y avez-vous pensé quand vous respirez une rose? Chaque fleur est même le plus souvent deux sexes, le mâle et la femelle, et sa vie brève est dans un flamboiement de beauté l'accomplissement de l'amour. Le pêcher rose se fait l'amour par toutes ses fleurs, et chaque graminée en fait autant, et les champs de la Beauce et de l'Ukraine, plus loin que tous les horizons, sont d'immenses champs d'amour. Dans la moitié du monde, en quelques semaines, plantes et arbres libèrent des milliards de tonnes de pollen dont les grains microscopiques vont pour la plupart se perdre au vent. Quelques-uns, par la grâce du hasard, de la brise ou des insectes, atteindront un pistil dans son érection figée et iront féconder les ovules pour que la vie continue. Pour que la vie continue, le règne animal, à son tour, s'émeut. Dans les forêts et les champs, sous les cailloux, sous les écorces, dans l'épaisseur de la terre et dans le vent, toutes les espèces animales, du ciron à l'éléphant, jettent leurs mâles à l'assaut des femelles. Dans chaque trou d'eau, dans les mares, les fleuves et les mers, les femelles des poissons pondent des milliards d'œufs sur lesquels les mâles viennent projeter leurs semences. Pendant quelques jours, les eaux vivantes ne sont plus qu'un immense brassage séminal. Dès que les alevins jaillissent en bouquet de ce magma générateur, leur agitation naïve attire vers eux les gueules affamées. La plupart sont aspirées, avalées, digérées dans les premiers instants de leur existence. Quelques-uns auront le temps de mûrir et de devenir poissons et de pondre à leur tour avant d'être avalés. Quelques-uns, assez pour que la vie continue. Pourquoi se préoccuper de tout cela? Puisqu'il y a la vie et que nous sommes dedans, eh bien vivons. Bien sûr, il n'y a qu'à vivre. C'est ce que nous faisons tous, c'est ce que tu fais d'habitude. Mais il suffit d'un instant. Tu es assis là, sur une pierre chaude, ou le sable de la plage, ou sur le bois poli de la chaise où tu t'assieds jour après jour pour travailler. Tu te reposes, ou tu travailles, ou tu manges, ou tu bois ton café. Toute la vie coule autour de toi, et toi avec. Milliards d'hommes, milliards de milliards d'êtres vivants et d'étoiles, et toi avec. Sans que tu t'en soucies. Depuis 20 ans, ou 40, ou 60, tu fais partie de tout. Ce tout qui se dilate ou se contracte, ou qui monte ou descend, qui vient de quelque part et va quelque autre part. Et toi avec. Tu y es à ta place avec ta forme à toi et ta fonction que tu ignores. Tu travailles, tu dors, tu respires sans te préoccuper. Tu existes comme le grain de sable sur la plage. La marée te roule et te mouille. Le soleil te sèche. Le vent t'emporte et te laisse tomber. Tu tiens ta place de grain de sable, milliards de milliards sur la grande plage. Et toi avec. Tu nais, tu vis, tu fais des enfants, tu travailles pour eux, pour les autres, contre les tiens. Tu aimes, tu hais, tu te bats, tu es heureux, malheureux. Tu manges, tu pleures, heureux au fond malgré tous les malheurs, sans réfléchir. Le train t'emporte, tout va, tu vas. Tu es assis sur une pierre de vacances ou sur ta chaise de travail. Et tout à coup, suspendu entre le vent, la marée et le soleil, suspendu, immobile, abandonné, tout seul, tout à coup, suspendu, brutalement, lucide. Un instant, un éclair, tu n'es plus dans le coup. Tout à coup, tu vois le fonctionnement autour de toi, l'énorme prodigieux tourbillon qui entraîne tout et tout depuis des milliards de temps, jusqu'au fond des milliards d'éternités, du fond des milliards d'espaces, jusqu'au fond des milliards d'infinis, milliards de multiples créatures en mouvement, atomes, cellules, individus, étoiles, galaxies, univers, tout en vient et tout y va, et toi avec. Où ça ? Un instant, un éclair suspendu, tu as vu. Le temps de comprendre que tu n'es rien, sans importance, nul, moins que zéro. Milliards de multitudes emportées, et toi avec. Parmi les multitudes de multitudes, dont chaque grain a autant d'importance que toi, ni plus ni moins. Ni moins la patte de mouche, ni plus la lune. Comme la lune, toi, ta famille. Humanité, galaxie, univers, zéro, poussière de poussière, rien, rien, dans le tout tourbillonnant, immobile, en voyage, depuis où, jusqu'à quand? Toi zéro, toi tes coliques, ton envie de sexe et de légion d'honneur, ton petit ventre à soupe, tes seins d'amour, tes moustaches, ta robe de soie, ta fameuse cervelle, ta belle jambe, toi zéro. Tu as repris ta place dans le vent et la marée, mais inquiet, brûlant le sable, dur la chaise, à quoi bon ces durillons aux fesses, ces mains calleuses, cette fumée par les oreilles, à quoi bon cette bataille, naître, vivre, mourir, pourquoi? Ce n'est pas toi qui répondras, ni moi non plus, mais sans espoir de réponse, si tu ne cries pas la question, alors tu n'es qu'un os. La matière vivante a commencé sur la Terre, semble-t-il, par une molécule. Nos chimistes connaissent son poids, sa formule, et lui ont donné un nom. Ce qui permet à certains de déclarer qu'ils espèrent bientôt surprendre les secrets de la vie. Ce sont des esprits vifs, qui sautent aux conclusions comme des puces au nez d'un chien maigre. Il n'est pas impossible qu'un jour prochain, un biologiste annonce triomphant qu'il a fabriqué du vivant, du vrai vivant dans une éprouvette, capable de s'organiser, de se développer et peut-être de se reproduire. Pourra-t-il prétendre, pour autant, qu'il connaît la vie ? Parce qu'il aura réuni les conditions dans lesquelles elle se manifeste et l'aura vu tout à coup animer sa préparation savante, saura-t-il, si peu que ce soit, ce qu'elle est ? Nous sommes devenus de fameux électriciens depuis le paratonnerre de Franklin et la lampe à filament de charbon de bambou de M. Edison. Nous illuminons des continents, nous envoyons un rayon rouge éclairer un trou de la lune. Nous fabriquons, transportons, utilisons sous mille formes des quantités considérables de courant électrique. Mais qui oserait prétendre qu'il connaît l'électricité ? Nous la capturons sans la voir. La maîtrisons sans la saisir, la transportons le long de millions de kilomètres de fil sans être seulement certain qu'elle s'y déplace. Bénéficions de ses effets sans savoir ce que nous mettons en cause. Elle peut produire des quantités fabuleuses d'énergie, mais elle n'est pas énergie. Elle est peut-être à la base de la cohésion de toute la matière, mais elle n'est pas la matière. Nous ne savons absolument rien de sa nature. Nous l'avons habillée d'une carapace de lois et de contraintes. Mais à l'intérieur de ce vêtement de prisonnier, il n'y a rien que nous puissions appréhender, ni avec nos sens, ni avec notre esprit. Elle échappe totalement à l'entendement humain. Elle est hors limite. La vie est un phénomène encore plus subtil. La vie non point passive, comme le fluide électrique, mais volontaire, organisatrice, lançant de la cellule à l'espèce des ordres que nul ne peut enfreindre, développant, hissant vers une conscience de plus en plus grande la boue qu'elle ramasse pour en faire des prix Nobel. La vie qui nous a été transmise, que nous avons transmise, et qui nous laissera mourir, qui dure, immortelle depuis les commencements de la terre et qui organise le meurtre de tous les vivants. La vie merveilleuse, atroce, insaisissable, indicible, inconcevable. Nous ne pouvons pas plus savoir ce qu'elle est que la bouteille ne sait ce qu'est le vin qu'on a enfermé en elle et qui la quittera. Mais la bouteille, au moins, voilà enfin quelque chose à empoigner. La bonne, solide, lourde, visible bouteille dans notre main d'homme ou de femme. Voilà enfin du tangible. Voir. La bonne matière. La matière matérielle, familière, dont nous sommes faits. Nous et le monde. Vous et votre assiette à soupe. Et la soupe et le fromage. Et votre femme et votre homme. Et votre enfant chéri. Et vous-même. Le bois de mon bureau, mon stylo, ma main, ma chemise, mon cœur, tout cela et tout le reste est en train de nous glisser entre les doigts, de s'évanouir, fumer, même pas fumer, rien. Un corps vivant ou un corps inerte, un caillou, un clou ou un genou, un pouls, sont pareillement constitués de molécules. Les molécules sont constituées d'atomes, et les atomes de particules dont certaines assemblées forment le noyau. Les autres tourbillonnant autour. Mais ce noyau est si petit, et les particules qui vibrillonnent à ses alentours encore tellement plus infimes, qu'on peut considérer qu'un atome est presque entièrement constitué de vide. De vide. Non pas d'espace empli par un fluide transparent, léger, insaisissable. De vide, de néant. Zéro absolu, rien. On a calculé que si on réunissait tous les êtres humains vivants sur la Terre, et si on parvenait à supprimer le vide de leurs atomes, toutes les particules qui composent l'espèce humaine tiendraient dans un dé à coudre. un dé à coudre de particules, et du néant pour construire 3 milliards d'hommes. Quel que soit le maçon, il s'est tiré parti des briques. Mais ces briques, elles-mêmes, ces particules, ce matériau de base de la matière, sont-elles vraiment bien solides? Sont-elles enfin quelque chose? Ma main, mon cœur, le bois de mon bureau, l'épaule de mon fils, de ma fille, peut-on s'appuyer? Prudence. Ces particules, ceux qui les connaissent le mieux en sont à se demander si elles ne sont pas seulement des parcelles d'énergie en mouvement, et si elles ne se divisent pas à leur tour en particules infiniment plus petites, séparées par du vide. Lesquelles particules infiniment plus petites n'ont pas de raison de ne pas être à leur tour composées d'énormément de vide et de particules qui, si petites soient-elles, peuvent à leur tour ne contenir à peu près que du vide et d'autres particules encore plus petites, plus petites, plus petites, plus petites, plus petites. Tout cela serait déjà assez effrayant, assez merveilleux, mais il faut ajouter que ces particules sont animées de mouvements si rapides et d'un caractère si particulier que leur position est toujours seulement probable. C'est-à-dire qu'elles ne sont à aucun instant, ni là, ni ailleurs, mais seulement quelque part. Ta femme, ton homme, ton cœur, ma soupe, ma main, toi-même, composée de tourbillons de rien qui ne sont jamais là. Vanité des vanités, dit l'inconnu de l'Ecclésiaste. Tout n'est que vanité. Il a peut-être commencé à le dire en sumérien, peut-être bien avant Babel le disait-il déjà, puis en araméen, en hébreu, en grec et en latin, vanitas, dérivé de vanus qui signifie vide. La science, à son tour, vient de le découvrir. Honorable, 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 honorable. Le lièvre a de grandes oreilles. De récentes études du comportement de ce quadrupède ont montré que toute sa vie était déterminée par la peur. Le lièvre n'existe que pour être tué, et il semble qu'il le sache. De sa naissance à sa mort violente, il se cache et fuit, fuit et se cache, cache ses petits. Ne se cache pas avec eux pour limiter les dégâts, fuit la nuit, fuit le jour, et parce qu'il n'aura pas couru assez vite, ne se sera pas assez bien caché, finira par être mangé, sans avoir connu, pendant sa vie traquée, autre chose que la terreur. Le lièvre a de grandes oreilles, une ouïe très fine. La nature, l'espèce, l'ingénieur, l'architecte, Dieu, qui vous voudrez, lui a donné une bonne paire dans sa petite tête de victime de ce merveilleux appareil à entendre venir l'assassin. Cela lui permet de dormir moins, de fuir à temps, de survivre juste assez pour ensemencer en hâte sa femelle afin que la lignée de la peur ne s'éteigne pas. Le renard aussi a de bonnes oreilles. La belette, le chien de chasse également. Et l'homme de Lascaux ou d'Altamira qui affrontait le bison avec des armes de pierre était capable d'entendre le troupeau dormir de l'autre côté du fleuve. L'oreille est avant tout un instrument de détection au service du meurtrier pour traquer sa victime, au service de la proie pour surprendre les pas feutrés de la mort qui arrive. C'est le radar du mangeur et du mangé. Dans la petite tête du lièvre, les merveilleux labyrinthes avec leurs 3 cavités hélicoïdales, leurs mousses subtiles de voiles vibratiles, leurs milliers de cellules accordées sur tous les bruits du monde des lièvres, n'ont d'autre fonction que de déceler l'approche furtive d'une autre paire de labyrinthes précédée d'une mâchoire carnassière. Ici, la sélection naturelle joue à plein. le lièvre qui aura l'oreille fine et la détente vive, vivra plus longtemps que son frère dur d'oreille et il aura plus de descendants. Grâce à la sensibilité de ses tympans, à la mobilité de ses osselets, à la sélectivité de ses cellules traductrices, à la promptitude de ses circuits nerveux, la chasse et la terreur pourront survivre. L'ouïe, l'odorat, la vue, les muscles, le cerveau, les millions d'inventions prodigieuses qui articulent le monde vivant semblent n'avoir été créées que pour maintenir les créatures dans le meurtre et dans l'horreur. La fabrication de l'oreille n'est pas le fait du hasard, son utilisation non plus. Les lois qui régissent le fonctionnement et l'équilibre du monde vivant sont aussi rigides, inéluctables que celles qui commandent les évolutions des galaxies et des atomes. Ni la cellule, ni l'individu, ni l'espèce ne peuvent échapper aux ordres de survie et d'agression. Si une espèce disparaît, c'est qu'elle a été remplacée par une autre plus meurtrière ou plus efficace dans la production de la chair consommable. Le comportement général du monde vivant fait penser à celui du légendaire Catoplébas, dont l'appétit et la stupidité étaient si grands qu'apercevant le bout de sa queue, il s'en saisit, commença à la manger et continua jusqu'à ce qu'il se fût entièrement dévoré. Mais le monde vivant n'est pas stupide, il est contraint. Il ne peut subsister qu'en dévorant sa propre chair. Et il ne parvient jamais à la dernière bouchée. En se mangeant, il assure sa survie et son accroissement. Ses entrailles lacérées se renouvellent, sa chair déchirée repousse et pousse et réclame encore plus de nourriture à ses mâchoires qui grandissent et mordent davantage. Sa chair renaissante est toujours dévorée. Et sans arrêt, chaque jour, à chaque instant, tandis qu'il fuit en rond dans l'absurde espoir d'échapper à lui-même, tandis qu'il s'égorge et renaît pour recommencer à se meurtrir, sans cesse augmente la somme monstrueuse, la somme inexpiable de sa souffrance et de sa peur. On ne peut pas pardonner cela à Dieu. Dieu. Voilà de nouveau ce nom gênant. Chaque fois que nous le rencontrons, il provoque dans notre esprit un réflexe immédiat d'adoration ou de haine, d'humilité ou de ricanement, ou de pseudo-indifférence, qui est peut-être l'attitude la plus négative et la plus inhibitrice de toute liberté de jugement. Ce réflexe pour ou contre bloque immédiatement tout le mouvement de la raison, et la passion prend sa place. Sinon la passion, du moins le sentiment, ce qui ne vaut pas mieux. Comment puis-je me permettre d'écrire ce nom, moi qui ne suis ni croyant, ni anti, seulement l'homme qui cherche à comprendre. Les fidèles vont me vouer au bûcher ou me plaindre, les rationalistes m'accuser de punaiser clandestinement les sacristies. Mais que puis-je écrire ? L'esprit ? Le Créateur, l'être suprême, l'ordinateur, le grand architecte, l'incréé, l'un, le tout, le Père, l'impersonnel, la cause universelle, mille noms, aucun n'est bon. Chacun détermine, limite, donne une sorte de personnalité à ce qui ne saurait en avoir. Seul le mot « Dieu » est assez indéfini pour ne pas tordre la direction de notre quête vers une impasse particulière. Mais il faut faire l'effort d'oublier 2000 ans de propagande des églises et les Himalayas de niaiseries qu'on a entassées sur le nom de la vérité. Il faut se nettoyer des fanatismes anticléricaux ou religieux et des habitudes d'esprit qui font refuser toute velléité de recherche au-delà du bout du microscope ou du catéchisme. Nul ne sait plus ce que signifie le nom de Dieu. L'adorer ou le haïr est pareillement infantile. On ne hait pas, on n'adore pas un je ne sais quoi. Ce que je sais, c'est que notre univers, considéré dans ce que nous pouvons connaître ou deviner de son ensemble ou de ses plus infimes détails, ne peut être confondu avec un produit informe et inorganisé du hasard, fût-il éternel. C'est que son examen, sans parti pris, impose à notre logique la conclusion qu'il est le fruit d'une intelligence inventive et d'une volonté planificatrice. C'est que la soif me dévore de savoir ce qu'est cette intelligence, ce que veut cette volonté, ce qu'elle veut de nous, nous les vivants, nous les poissons avalés, les lièvres saignés, les rameaux coupés, les herbes tondues, nous la graine germante et le grain broyé. Le dieu papa que nous proposent les religions leucémiques est une tentative aussi dérisoire et aussi cocasse d'apaiser notre soif que l'octroi d'une goutte de sirop à un déshydraté. Il nous faut retrouver la source vive de la vérité et pour cela déblayer ou sonder l'Himalaya dont on l'a recouverte. C'est une tâche énorme, mais il n'y a pas de tâche plus urgente. Janvier 1966. Je vais terminer ce livre aujourd'hui. Malgré tous les efforts de mes deux petites filles qui grattent à ma porte, m'appellent, courent dans le couloir après la queue du chien, pleurent, rient, vivent et ne se doutent de rien. J'ai deux petits-fils aussi, au bord de la mer. Quatre bourgeons qui portent déjà dans leurs cellules innocentes les ordres de la lignée, de l'espèce et de la vie. Et d'ici que ce livre paraisse, peut-être y en aura-t-il un ou deux autres en chemin. La vie, l'amour, l'espèce ne sont pas chiches. L'année finie, l'année commence. La vieille, la jeune terre tourne sur elle-même, tourne autour du soleil dans le grand espace vide, tourne comme le dernier valseur qui ne veut pas que le bal finisse. Le soleil tourne et l'entraîne, entraîne ces planètes qui tournent dans le grand tour touristique de l'interminable galaxie. La galaxie tourne, l'univers tourne, la foule fantastiquement innombrable des particules tourne, et tout ce tournis tournoyant n'est qu'un infini tourbillon de rien. Zéro. Mes petites filles courent après la queue du chien. Elles existent parce qu'elles vivent. La seule réalité, c'est la vie. La matière est une illusion. L'univers n'est que le vent infini du vide. La queue du chien existe parce qu'une petite fille vivante la voit et veut la saisir. Je me sens aussi jeune qu'elle, plus peut-être, à cause de ma curiosité et de ma joie qui sont plus grandes que les leurs. Elles vivent. Moi, je sais que je vis. Il m'a fallu beaucoup de temps pour l'apprendre et je voudrais savoir tout le reste. À moins d'être Dieu, le temps tout entier n'y suffirait pas. L'année commence, le jour finit, on va coucher les filles. Je voudrais déjà avoir écrit le mot fin. Que sera demain matin? Le temps d'un homme est court. Le temps des hommes n'aura peut-être pas de fin. Ils sont peut-être destinés à faire sauter la machine imparfaite. Mais peut-être au contraire à la perfectionner. D'ici un siècle, ils auront fait disparaître de la terre toutes les espèces vivantes autres que la leur. Ils seront au moins 50 milliards, ils occuperont toute la surface. Il n'y aura plus de place sur les continents, ni sous les eaux pour une brebis, un brin d'herbe, une morue. Pour nourrir 50 milliards d'hommes, on n'aura plus le temps d'attendre que le veau devienne bœuf, même dans des étables gratte-ciel, ni que la graine devienne carotte, que le blé mûrisse et que le rouge vienne aux fraises. On produira par synthèse, en usine, à l'accéléré, des aliments complets, stérilisés, vitaminés, aromatisés, empaquetés par ration, consommables à la sortie de l'emballage. Nous sommes une des dernières générations sauvages mangeuses de laitue et de viande sanglante. Nos lointains descendants frémiront d'horreur à la pensée de ces proches ancêtres qui se nourrissaient de racines, de graines, de tubercules terreux et qui égorgeaient des bêtes et les coupaient en morceaux pour les manger. L'homme ayant gagné définitivement la bataille des espèces aura mis fin, en les éliminant, à leur guerre perpétuelle. L'espèce humaine, seule forme de vie-subsistance, tirera directement par l'usine sa nourriture des substances minérales. La grande manducation du vivant par le vivant, le cycle de l'assassinat, de la peur et de la souffrance aura pris fin. L'homme, sommet de l'évolution terrestre, en détruisant ceux qui l'ont précédé, produit, servi et nourri, mettra un point final au temps douloureux de l'obscure gestation. Telle est peut-être la raison d'être et la justification de l'espèce humaine. Un autre temps déjà se présente. La terre a mûri sa graine et s'apprête à la semer dans les étoiles. L'homme se trouve devant deux destins possibles. Périr dans son berceau, de sa propre main, de son propre génie, de sa propre stupidité, ou s'élancer pour l'éternité du temps vers l'infini de l'espace et y répandre la vie délivrée de la nécessité de l'assassinat. Le choix est pour demain. Il est peut-être déjà fait. Par un homme, par l'espèce, par la vie, par le plan, par qui ou par quoi ? Chers auditeurs, merci. Je vous retrouve en septembre pour une émission consacrée à l'écrivaine américaine Joyce Carol Oates. D'ici là, je vous souhaite un très très bon été sur les ondes de Radio B.